La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est l'écrivain Chaouki Amari pour votre nouveau roman « L'âne mort » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans ce livre, vous racontez l'histoire de trois amis qui circulent à bord d'un break bleu dans les montagnes de Kabylie en Algérie, Tissam, Mounir et Liès. Et ils ont un passager qui pose problème. Un âne mort qu'ils ont caché dans le coffre. Alors c'est un roman picaresque, poétique, humoristique aussi, un livre parfois aussi qui nous fait penser à un conte et qui va certainement donner envie aussi à nos auditeurs de lire d'autres livres puisqu'il est beaucoup question de littérature dans ce roman. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ces trois personnages? Pourquoi sont-ils en fuite à bord de cette voiture?
Oui, bien sûr, sans dévoiler le roman, sinon personne ne va l'acheter. Donc c'est trois personnages typiques, on va dire, d'Alger. On ne va pas donner leur âge, parce qu'il y a...
On découvre leur âge à la moitié du roman, c'est ça, et c'est vrai que c'est assez surprenant.
C'est surprenant, mais en fait, ça ressemble un peu... J'en ai Alger qui travaille un peu, pas beaucoup. C'est très méditerranéen, donc il y a beaucoup de chômage, en temps de l'ennui, une forme d'oisiveté. Qui est d'un côté, on va dire, la mère de tous les vices, mais en même temps qui pousse à la curiosité. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, je crois que c'est au deuxième chapitre, troisième, où l'histoire commence, parce que, bon, ils veulent gagner de l'argent, comme tout le monde. C'est la loi du marché. Et donc, ils se disent que, bon, pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vendre des produits. Donc, ils se mettent en contact. Bon, on est quand même en Alger, donc il y a tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc ils arrivent à trouver un contact intéressant, c'est un ancien commissaire à la retraite qui s'est reconverti dans les affaires, et qui, par justement une série de contacts comme ça juxtaposés, décide comme ça de les aider, parce que lui aussi on l'a aidé quand il était jeune, etc. Mais donc il a une grande maison, et comme lui vient d'un petit village de la montagne, où il a passé une enfance, on va dire, relativement difficile, donc il a vécu aux côtés d'un âne. Et donc c'est devenu un peu une espèce d'animal fétiche très proche de lui qui est mort. Et je crois, si je me rappelle bien, bon, c'est bien moi qui ai écrit ce livre, je vous rassure, mais ça fait
longtemps.
Vous l'avez
publié en Algérie, ouais, il y a déjà quelques années,
c'est ça,
et
en
il
fait.
Paraît en France en
c'est
2020.
Ça, ouais. Donc il me semble, hein, si je ne fasse bêtise, donc c'est le fils de son âne. Même si je crois que les ânes ne peuvent pas avoir d'enfants. Bon, on va vérifier tout ça dans quelques minutes. Et donc... il a un âne chez lui, qui est dans son jardin, super jardin luxuriant, avec piscine et tout. Mais comme il n'est pas encore arrivé, donc les trois protagonistes l'attendent. Ils attendent, et en l'attendant, ils ne savent pas quoi faire, ils sont un peu, ils jouent avec l'âne. Et bon, on ne va pas raconter l'accident, mais l'âne tombe dans la piscine, et ils essaient de réanimer. Bon, c'est pas évident de réanimer un âne. Bon,
ils pensent même à faire du bouche-à-bouche.
Des massages cardiaques, après c'est des grandes questions métaphysiques. Un âne a-t-il un cœur? Est-ce qu'on veut lui faire du bouche à bouche? Bon, bref, ils n'arrivent pas à le réanimer. Ils se disent, comme ils connaissent la relation particulière qu'a cet homme d'affaires avec son âne, ils se disent, si jamais il apprend qu'on l'a tué, c'est fini pour nous. Et donc, ils décident de prendre l'âne, de le mettre dans leur voiture et démarrent. Sauf que leur voiture a un problème, puisque c'est une voiture qui est obligée de s'arrêter toutes les heures, je crois, à cause d'un problème de surchauffe. C'est un road movie, en fait, un peu haché, parce qu'après, le commissaire donc décide de poursuivre les trois jeunes gens, parce qu'il veut récupérer son âne. Donc, dans tout Alger, il y a des affiches avec un âne, wanted, avec une récompense. Et donc, ils sont obligés de fuir Alger. Donc, ils se réfugient, évidemment, en Kabylie, c'est à côté d'Alger, puis c'est une région un peu rebelle. Donc là, ils ont plus de chances de passer inaperçus, avec des complicités locales, les Kabylies ayant une espèce un atavisme comme ça contre le pouvoir central depuis 3000 ans, on va dire. Donc, ils bénéficient de cette complicité locale, mais ça reste un road movie avec un gradient altimétrique, c'est-à-dire que bon, plus ils s'élèvent, plus leur psychologie change, leur rapport change. Bon, j'ai choisi un trio parce que le triangle est une base, on va dire, assez stable. Il y a trois côtés égaux. D'ailleurs, même moi, quand je vais en voyage, je le fais souvent dans le sud d'Algérie ou ailleurs. J'essaie toujours de partir à trois parce que trois, ça fonctionne. On peut être deux contre un contre deux. Ça avance. Donc, ce trio, effectivement, va commencer à se désagréger par des mécanismes que j'appelle, moi, altimétriques, mais qui ne sont pas. Mais effectivement, je fais quelques parenthèses où je me dis que la pression de l'air étant moins forte quand on s'élève, il y a peut-être des transformations psycho-affectives qui peuvent jouer. D'ailleurs, le roman est basé sur la gravité, en fait.
Et le dernier chapitre s'appelle d'ailleurs La Descente.
La Descente, ouais.
Alors, il y a un autre personnage, Shaoqi Amari, un mystérieux libraire, un homme qui a transformé une pizzeria en librairie, ce qui n'est pas banal, d'habitude c'est plutôt le contraire.
C'est l'inverse,
ouais. Qui est ce libraire ?
Alors, c'est un espèce de personnage un peu étrange qui a décidé de monter le plus haut possible. Donc, il est dans un village de Kabylie qui est à peu près, on va dire, autour de 2000 mètres. Et on va dire que c'est le village le habité le plus haut du nord, hein, parce qu'en fait, le plus haut habité, il est dans le sud, bizarrement. Et donc, il n'a pas réussi à aller plus haut, mais lui, il a décidé, justement, pour échapper à la gravité des terrestres, au poids des traditions, parce qu'il s'agit encore une fois de tout ça, de cette attraction gravitationnelle qui fait qu'on est ensemble et qu'on n'est pas, on n'est pas des nuages de gaz, hein. Ce qu'on serait s'il n'y avait pas les forces gravitationnelles, d'ailleurs. Et donc, en s'élevant, il pense justement régler un certain nombre de choses. Et donc, ils sont, les trois, le trio est attiré sans le savoir par ce personnage, sans le connaître. Parce que d'abord, il a une espèce de force lui-même d'attraction qui attire
d'attraction.
Les gens. Et en même temps, il est vraiment plus haut. Et eux, on essaie de s'échapper, vu qu'il ne veut pas vraiment le faire à l'horizontale, parce que, bon, je vous rappelle, l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Donc, si on se met à rouler à l'horizontale, on peut rester comme ça assez longtemps. Donc, ils ont choisi justement de fuir à la verticale. C'est un peu ça. Mais après, bon, effectivement, on ne peut pas aller plus haut. Sauf que Izuzel a trouvé le moyen d'aller plus haut, puisqu'il a une montgolfière qui est d'ailleurs gonflé, rechappé régulièrement par un Chinois qui a atterri à Alger et qui a décidé d'y vivre. Donc en gros, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais
en tout cas, ça
il s'agit en fait beaucoup de gravité, d'altimétrie et de mécanismes psychologiques qui changent avec la pression atmosphérique.
Il y a beaucoup de questions d'ailleurs dans ce roman, des questions sur le poids des choses, Shaoqi Amari, notamment cette question, est-ce qu'un âne mort est plus lourd qu'un âne vivant ?
C'est une grande question. En fait, je me suis posé la question. Pourquoi on dit qu'un âne mort est plus lourd qu'un âne vivant? Logiquement, ça devrait être le contraire, puisqu'un âne vivant se débat. Il semblerait être plus lourd, mais c'est peut-être justement ce poids de l'inertie, quelque chose qui ne bouge pas, est forcément plus lourd.
Alors, il faut préciser que ce libraire est toujours pizzaïolo. Il fabrique
toujours,
des pizzas.
Ouais, il a toujours son four. Bon, vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'intéressant, parce qu'effectivement, avec le phénomène d'éculturation, en Algérie ou ailleurs dans le monde, les gens ne lisent plus, donc... En Algérie, on assiste souvent à des librairies qui se convertissent en pizzeria. Je dis pizzeria parce que pendant les fast-foods, ça marche très bien. Il y a un truc qu'on ne va pas arrêter de faire, c'est de manger, ça c'est sûr. Et donc le truc facile, c'est ça, c'est de faire une pizzeria ou un fast-food. Et donc c'est toujours dans ce sens. Par contre, il arrive, il y a eu des cas comme ça, réels, à Alger ou dans d'autres villes, où c'est l'inverse qui est passé, donc j'ai choisi ce cas pour... ce villageois qui est dans un tout petit village à 2 mètres de Matisse qui a décidé de transformer sa pizzeria en librairie, mais il a gardé le four à pizza.
Alors, il faut préciser tout de même que ce libraire a quand même des aspects sombres. J'ai parlé d'un roman qui parfois évoque les contes, et lui, il ressemble un peu à Barbe Bleue, car il tue ses différentes épouses.
Ouais, il est soupçonné de tuer ses femmes, hein. Il en est, je crois, la septième à peu près, ou la
il
sixième.
Il en a tué six et il propose à Tissam de l'épouser pour la faire monter
elle
au septième
sachant
ciel.
Sachant peut-être que, justement, il y aurait une corrélation entre quoi, Eros et Thanatos, l'amour et la mort. Donc, elle est attirée sans le savoir par ce personnage qui a un pouvoir, comme je disais, d'attraction assez forte. Mais c'est aussi un roman, hein, on va dire, sur la gravité et surtout un clin d'œil évidemment Apulée.
Dont nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission.
Ça marche.
Notre invité est Shaouki Amari. Je rappelle le titre de ce très beau roman, L'âne mort, publié aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans quelques instants.
La bibliothèque de Radio-Orient avec Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de la bibliothèque de Radio-Orient. Nous sommes toujours en compagnie de Shaouki Amari. Vous êtes venu nous présenter ce très beau roman passionnant, L'âne mort, aux éditions de l'Observatoire. Alors, c'est un roman qui rend hommage à un autre livre publié il y a 2000 ans, un roman appelé L'âne d'or ou parfois Les Métamorphoses. Il a été écrit en latin par Apulée au IIe siècle après Jésus-Christ. Et c'est un auteur, vous le rappelez, je l'ignorais, qui est né en Algérie, dans l'actuel Mdaourouch. Et j'ai remarqué que votre livre était découpé en 11 chapitres, comme celui d'Apulée.
Bravo, monsieur. On s'approuve, vous avez lu le livre déjà. Quand j'ai les journalistes, ils ne lisent pas, ils lisent les quatrièmes couvertures, ils arrivent à parler. Bon, je suis moi-même journaliste, donc je peux le faire. Je peux parler d'un truc pendant deux heures. Non, je connais pas. Non, effectivement, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est d'abord de rendre hommage à Apulée, hein, qui est considéré comme... Bon, après, il y a débat là-dessus. Hein. Est-ce que c'est le premier romancier de l'histoire ou le premier romancier maghrébin, africain ou latin? On ne sait pas trop. En tout cas, avant les Métamorphoses, donc l'âne d'or, il n'y avait pas vraiment... Il y avait les contes, il y avait cette forme comme ça, avec une narration particulière, qui est qualifié d'ailleurs de roman, c'est quand même lui qui l'a fait. Donc. Et je me suis trouvé à lui ressembler à 2000 ans d'écart, lui étant berbère qui écrit en latin, moi-même étant berbère mais j'écris en français. Et finalement, je me suis rendu compte que les problématiques restent globalement les mêmes.
Hein. J'ai lu quelques pages d'Apulée, vous m'avez donné envie de lire ce livre traduit du latin. Et ce qui est frappant dans l'âne d'or, c'est la description des montagnes, des villages, des animaux. Et cela peut nous faire penser à l'Algérie rurale, alors que le livre est censé se dérouler en Grèce au IIe siècle. Vous pensez qu'il a été inspiré par les paysages de l'Algérie de l'époque?
Je pense aussi, hein, par les paysages, les animaux, la faune d'époque. Je vous rappelle qu'il y a 2000 ans, il y avait encore des lions en Algérie, il y avait des léopards, des... Enfin, plein d'animaux, il y avait même des Romains. Donc c'était assez, je dis, au niveau de la faune, c'était assez particulier. D'ailleurs, on retrouve ça dans le l'âne d'or, qui s'appelle l'âne d'or, hein, parce que ça démarre, je résume un peu l'histoire, c'est Apulée lui-même qui est transformé en âne par une sorcière un peu amante, bon, une sorte de cul comme ça, un peu, qui fait que pour qu'il retrouve sa forme humaine, il va passer par une série d'une espèce de quête mystique comme ça, plus profond de l'âme humaine, pour redevenir un être humain. Bon, moi, j'ai pris le problème à l'envers. Est-ce que je l'ai pris à l'envers? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, enfin, il y a un passage dans le roman, dans mon roman, je vais pas l'expliquer là maintenant, mais qui prend un peu le contre-pied d'Apulée. Enfin, il s'agit pas de faire un espèce de remake, hein, ça. Les deux séries n'ont pas grand-chose à voir.
Avant le début de votre roman, vous rendez hommage à Apulée en disant que finalement c'est le premier romancier de l'histoire et en même temps le premier romancier algérien. C'est important les Algériens et plus généralement les habitants du Maghreb de revendiquer aussi leurs racines antiques, notamment aussi la Grèce, la Rome antique.
Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient Apulée. Hein. Enfin, il le connaissait, mais ils n'imaginent pas un peu cette profondeur qui fait de lui, si ce n'est le premier romancier algérien, au moins le premier romancier du monde, au moins le premier romancier algérien. Donc, j'estime que tous les écrivains actuels devraient lui rendre hommage. C'est un peu ce que j'ai fait. Et depuis quelques années, d'ailleurs, on fait des colloques sur Apulée, on fait des rencontres, des symposiums, des...
Il y a même une très belle revue littéraire qui a été cofondée par un auteur algérien, Yahya Belaskri, et qui s'appelle Apulée. Alors, dans votre...
Apulée de Mador, c'est ça.
Dans votre roman, Shaoqi Amari, il y a des pages splendides sur la montagne. On sent que vous les connaissez, ces montagnes, et que vous les aimez. Alors, j'aimerais lire un court extrait. Le col, 1500 mètres d'altitude. C'est un carrefour important qui délimite les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira. Une route, d'ailleurs, suit les dernières crêtes et bascule sur le versant nord du Djourdjoura et les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Une autre route mène à Bouira par Tikdja en longeant les imprenables barres calcaires du Taletat, dit aussi la main du juif, du Tizi Bouswil, de l'Akouder et de Timdouine, deuxième sommet de la région, moins haut de 3 mètres seulement que le Tamgout Lala Khadija, 2300 mètres, toujours au col, une piste qui longe les montagnes pour plonger vers Aït Waban et son obscure forêt de cèdres, une piste inaccessible aux voitures, strictement réservée aux ânes et à leurs familles. C'est un paysage que vous connaissez bien?
Ouais, j'y vais souvent. Et... ouais, moi, c'est... bon, je suis géologue de formation, donc pour moi, la pierre est supérieure au monde végétal, qui est supérieur au monde animal. Parce que quand on voit en fait les barres calcaires dont vous parliez, ce sont c'est un peu comme les Alpes, hein, d'ailleurs, c'est la même formation. Hein. C'est une tectonique alpine. Hein. C'est-à-dire les montagnes d'Urgia sont nées en même temps que les Alpes. C'est le rapprochement des plaques africaines et européennes qui ont fabriqué ces montagnes. Mais quand on les voit de la plaine, les humains sont dans la plaine, ensuite les animaux qui veulent échapper aux humains, on parle des animaux sauvages. Et plus haut, il y a les arbres, donc les cèdres. Il y a une limite pour les cèdres. Hein, je crois que c'est à peu près la limite des arbres, c'est-à-dire à peu près à 1200, 1300, il n'y a plus d'arbres. Et après, au-dessus, il y a que les pierres, entre guillemets, qui parviennent à vivre. Donc, on voit vraiment l'étagement des règnes, comme ça, sur une espèce de coupe de face.
Vous avez le sentiment que ces montagnes ont façonné aussi l'âme de leurs habitants?
Oui, je crois. Je crois qu'on est l'enfant de notre environnement. Un homme des plaines ne ressemble pas à un homme des montagnes, qui ne ressemble pas à un homme des forêts, qui ne ressemble pas à un banquier. Je veux dire, on ressemble un peu à ce qu'on a autour. Hein. On est façonné.
Alors, que représente l'âne dans ces régions montagneuses? Vous nous faites comprendre que pour la population, c'est un animal indispensable, très utile, mais en même temps, c'est un animal que l'on méprise. Traiter quelqu'un d'âne, c'est une insulte.
Et je crois que c'est valable partout dans le monde. Un âne, c'est une espèce de sous-cheval qui n'a aucune élégance, qui est têtu, mais qui est très utile. Hein. Et on ne peut pas faire porter à un cheval ce qu'on fait porter à un âne. Hein. Donc l'utilité est évidente. Après, pourquoi il l'accepte, ça, on n'est pas des ânes pour le savoir. Mais il a un côté comme ça, effectivement. Alors qu'il n'est pas sale, il n'est pas plus bête d'ailleurs qu'un cheval, je ne sais pas.
Alors, il y a des formules choc qu'on a envie de souligner dans votre roman, Shaoqi Amari. Vous parlez du Djourdjoura, classé parc national, où toutes les espèces, sauf les humains, sont protégées par la loi. Et plus loin, vous écrivez, l'Algérie ne tient plus, même les montagnes tombent en morceaux. Alors, on rit de ces notations qui sont finalement tragiques. Votre livre est plein d'humour, on vous entend au micro de Radio Orient. C'est cela l'humour algérien? Un humour teinté de désespoir?
Enfin, je ne trouve pas que je sois si désespéré que ça. Non, non. Mais l'humour algérien, je ne sais pas, ouais, c'est une forme d'humour noir, avec beaucoup d'autodérision. Mais non, je ne crois pas que ce soit un humour lié à une forme de désespoir. Quand je dis les montagnes s'effritent, bon, il y a le point de vue géologique. D'abord, les montagnes s'effritent. Effectivement, les blocs qui tombent viennent d'en haut. Hein. Mais il y a aussi... l'idée que les gens redescendent des montagnes pour aller vivre dans les plaines, parce que dans les plaines, il y a de l'eau, l'électricité, il y a le confort, etc. Donc, espèce de descente. D'ailleurs, Mato Blounès, le fameux chanteur kabyle, il disait ça veut dire la montagne est devenue une plaine. C'est évidemment une allégorie. Mais c'est-à-dire tout ce qui faisait la montagne, la fierté et la rudesse de la vie en montagne, de cette espèce de noblesse de voir tout de haut, a disparu avec le temps et tout le monde veut vivre en ville, en bas.
Votre roman, c'est aussi une métaphore de l'Algérie d'aujourd'hui?
Non. En fait, comme j'écris en fait dans un journal où je suis éditorialiste, donc je traite les sujets politiques, on va dire, quotidiennement. Et donc dans les romans, j'essaie justement de faire le contraire, de ne pas rentrer dans les... dans les allégories politiques, etc. Donc, il y a peut-être ouais, une métaphore, mais en fait, la métaphore s'adresse au monde entier. Hein. C'est-à-dire, en redescendant sur Terre, la force de gravitation est plus forte. On est plus petit, peut-être, hein, que si on était resté dans les montagnes. Hein. Mais bon, après, ça renvoie à l'origine même de l'être humain. Si on était resté dans les arbres, eh ben, il y aurait encore des arbres, hein, déjà.
Merci, Shaoqi Amari. Je rappelle le titre de votre très beau roman que je recommande à tous les auditeurs de Radio Orient, L'âne mort, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci.
Merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.